France Musique.
Merci Lionel Esparza.
Merci Lionel, et à demain.
Tapage nocturne jusqu'à minuit, c'est reparti.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage nocturne. France Musique.
Nous recevrons dans ce tapage nocturne le compositeur et multi-instrumentiste australien Oren Ambarchi, qui fait escale dans notre studio 107 de la maison de Radio France pour quelques heures. Mais ouvrons cette émission par notre page phonographique. Alors mon cher François, avec quoi venez-vous aujourd'hui ?
Eh bien avec une madeleine, cher Bruno, mais madeleine spéciale, car il s'agit d'une ancienne pièce qui vient pour la première fois d'être éditée en CD. Il s'agit de la pièce Feminine de Julius Eastman. Figure oubliée de l'avant-garde new-yorkaise des années 70-80, Julius Eastman a connu un destin tragique et contrasté. Il débuta une carrière prometteuse dans le monde musical académique à Buffalo, autant comme interprète et compositeur que comme professeur de composition. Puis il retourna à New York et s'inscrivit dans la scène downtown avant de se brûler les ailes par l'absorption de plus en plus importante de toxiques. Il mourut à 49 ans dans l'oubli et la misère. Peu de matériels exploitables ont subsisté, mais le label finlandais Frozen Reeds est parvenu à mettre la main sur le seul enregistrement de la pièce Feminine, dont nous allons écouter un extrait. Se déroulant sur plus d'une heure, Feminine est interprété par le SEM Ensemble et par Eastman lui-même au piano. Cette pièce a été enregistrée le 6 novembre 1974 à Albany et nous écoutons les premières minutes. Julius Eastman, Feminine.
Thank you.
Nous venons d'écouter un extrait de la longue pièce Feminine de Julius Eastman.
Depuis quelques années, le compositeur Jean-Luc Favchamp affirme son goût pour les constructions paradoxales et son sens de la synthèse avec des pièces qui se renvoient l'une à l'autre. Depuis plus de 16 ans, il travaille sur l'élaboration d'un vaste réseau de cycles, les lettres soufis, manifeste pour l'écriture qui utilise les correspondances analogiques comme fondement systémique. Occasion de découvrir par le disque un aperçu de ce procédé compositionnel si singulier, d'interrelations symboliques basées sur les 28 lettres de l'alphabet arabe. Z2 de Jean-Luc Favchamp.
Thank you.
Z2 de Jean-Luc Favchon, interprété notamment par Pierre Van Boxtel, au hautbois.
Oren Ambarchi est un musicien infatigable. Multipliant les concerts, les voyages et les collaborations à un rythme effréné, l'artiste australien n'a de cesse de poursuivre sa quête sonore, pourchassant la musique et ses avatars en déployant lui-même une énergie folle pour composer, improviser et collaborer avec des artistes aussi divers que Ricardo Villalobos, Stephen O'Malley, Thomas Brinkman ou encore Mark Fell. Mais son obsession musicale le conduit également à interpréter des œuvres de vénérables anciens tels Alvin Lucier ou même à promouvoir des raretés discographiques à travers son propre label Black Truffle Records. À l'occasion de la sortie assez récente de son dernier album Hubris et de son passage à Paris, nous avons interviewé Oren Ambarchi et il est l'invité de ce tapage nocturne.
Bruno Le Thor et François Bonnet, tapage nocturne. France Musique.
Oren Ambarchi, bonsoir. Comment et quand cette obsession pour la musique a-t-elle débuté ?
Apparemment, cette obsession pour la musique a commencé quand j'étais tout petit, avant même que j'apprenne à parler. Ma mère poussait mon landau dans un supermarché. C'était au début des années 70, fin des années 60. Je ne suis pas tout jeune. Et on pouvait entendre les Beatles. Et en rentrant du supermarché, ma mère m'a entendu chanter les mêmes mélodies que celles qui étaient passées. Alors elle m'a acheté un petit tourne-disque, un petit modèle portable pour écouter des 45 tours. Et elle a commencé à m'acheter des disques, des Beatles, de Paul McCartney, de Jimi Hendrix, de The Who. Et celui qui m'a le plus accroché, c'était Led Zeppelin, Whole Lotta Love. Apparemment, je le mettais si souvent qu'elle a dû m'acheter un autre exemplaire du disque. Et toute ma famille, mes tantes, les gens d'autres pays qui venaient nous rendre visite, eh bien, quand ils entendent cette chanson aujourd'hui, ils pensent toujours à moi, bébé, qui l'a passé sans arrêt. Et ça les rendait complètement fous. J'adorais les disques dès mon plus jeune âge. Et en fait, rien d'autre ne m'intéressait. Je n'avais pas vraiment de jouets. Il n'y avait que la musique qui comptait pour moi.
avez ensuite appris à jouer d'un instrument?
Quand j'avais 7 ou 8 ans, j'ai rencontré des enfants plus âgés que moi qui avaient des instruments de musique. Un garçon qui avait une guitare m'a donné des baguettes et j'ai commencé à taper sur des casseroles, des bottins téléphoniques. Vous savez, tout ce qui traînait autour de moi. J'avais très envie d'avoir une batterie et mon grand-père avait une boutique d'objets d'occasion.
That sold a lot of sort of junk, like a junk store, a lot of used things, and he had drums there.
Et il avait une batterie dans son magasin. Mais mon père n'était pas du tout d'accord pour que j'en ai une. Je pense qu'il savait que j'allais jouer toute la journée et que ça allait les rendre fous. Donc il m'a dit, si tu veux jouer de la batterie, tu fais d'abord au minimum un an de leçons de piano, et après ça, on en reparle. J'ai donc dû suivre des leçons de piano classique pendant un an. Et au bout d'un an exactement, j'ai dit, ça y est, c'est fait. Mon père a été très sympa parce que quelques jours plus tard, j'ai eu une batterie. Elle était un peu pourrie, mais il m'en a offert une. Donc j'ai commencé à jouer en écoutant des disques. J'avais 9 ou 10 ans, c'était sur des disques de rock'n'roll ou de punk. Mais au même moment, mon grand-père avait aussi dans sa boutique beaucoup de pédales d'effet, des magnétophones et des radios à ondes courtes. Il me laissait prendre tout ce que je voulais et lui rapporter quand j'avais terminé. Donc je me suis mis à bidouiller des collages électroniques bizarres sur cassette à la maison en utilisant un magnétophone double cassette. Et avec ça, j'ai appris à faire un flanger et des effets en jouant deux copies de la même cassette en même temps. Et je faisais une sorte de musique concrète très rudimentaire parce que je m'intéressais aussi aux appareils électroniques bizarres.
Plus tard, vous décidez de partir pour New York.
Yeah, because when I finished high school,
quand j'ai fini le lycée, avec mes économies, j'ai tout de suite déménagé à New York et j'ai essayé d'y rester aussi longtemps que possible.
And see as much music as possible, as many gigs as possible.
À New York, j'essayais d'aller à un maximum de concerts, d'acheter le plus de disques et de matériel possible. Et quand je n'avais plus d'argent, je rentrais en Australie pour me renflouer et puis je repartais. C'est ce que j'ai fait à 5 reprises à la fin des années 80, au début des années 90. À l'époque, j'écoutais beaucoup de jazz. Et en Australie, quand j'avais dans les 18-19 ans, j'avais essayé de jouer du free jazz à la batterie. Et moi, j'avais l'impression que c'était à New York que les choses se passaient. Donc, je voulais y aller pour voir de mes propres yeux ce qui se passait, au lieu de lire des articles ou de me contenter d'écouter des disques. J'avais envie de voir les musiciens que j'adorais. J'ai eu la chance de voir en concert des gens géniaux, comme Cecil Taylor, Miles Davis qui jouait dans un petit club. J'avais accès à ces gens-là et j'allais écouter de la musique tous les soirs. Ça m'a donc beaucoup influencé. Et cela m'a poussé à découvrir une musique de plus en plus expérimentale. En commençant par des concerts de free jazz, j'en suis arrivé à être exposé à la musique expérimentale.
Collaborer avec d'autres musiciens semble fondamental pour vous.
Oui, la collaboration est très importante pour moi. J'ai toujours travaillé en collaboration, mais quand j'ai commencé à jouer de la guitare, j'ai consciemment décidé de jouer en solo et de faire des albums entièrement en solo. Et j'ai fait ça pendant des années. Au bout d'un moment, j'ai commencé à ajouter d'autres éléments, des percussions, des cordes, des choses comme ça. La plupart du temps, je les faisais moi-même. Ça commençait toujours par la guitare, et puis j'ornais la composition avec d'autres instruments. Mais j'ai commencé à en avoir marre de toujours avoir la guitare pour point de départ. J'avais envie d'une source d'inspiration extérieure. Donc j'ai commencé à penser que pour mes albums solo, je pouvais demander à une personne que j'admirais de faire quelque chose de spécifique auquel je réagirais. Cela m'a redonné envie de faire de la musique et d'enregistrer des albums. Et c'est pour ça que ces 5 ou 6 dernières années, il y a beaucoup de collaborations sur mes albums solo. Elles ont joué un rôle très important.
Peut-être de s'affirmer comme compositeur.
Je ne sais pas, ce mot est très lourd de sens. Je ne sais pas vraiment comment je ressens les choses. Mais je ne vois pas les choses comme ça. Je fais de la musique et beaucoup de gens m'aident à concrétiser ce que j'entends dans ma tête.
Hubris est-il un disque de voyage, comme il y aurait des carnets de voyage?
L'album précédent, Quixotism, était déjà comme ça. J'ai fait ça parce que je ne reste jamais très longtemps au même endroit. Je voyage tout le temps pour faire des concerts. Le bon côté de ça, c'est que je peux voir des gens qui me sont proches, des gens avec qui je travaille, dans le monde entier. Et parfois, je trouve le temps d'enregistrer des choses avant de poursuivre ma route vers la ville suivante. Donc beaucoup de mes travaux récents sont des sortes de compilations d'enregistrements que j'ai fait quand j'étais sur la route, en passant d'une ville à l'autre. Et au final, quand je rentre en Australie ou au Canada, où je vis parfois, je transforme tout ça en une pièce. Oui, c'est vraiment le reflet de mon mode de vie, parce que je ne reste jamais très longtemps au même endroit.
Jouer très souvent en Europe. Étant basé en Australie, c'est compliqué?
J'ai maintenant 47 ans et je vis comme un nomade. J'ai toute ma vie dans ma valise et je ne reste jamais très longtemps au même endroit. D'un côté, je sais que j'ai de la chance de faire ce que je fais, de jouer autant, d'être invité à jouer dans plein de lieux. Mais d'un autre côté, c'est très fatigant et c'est perturbant de ne jamais se poser longtemps quelque part. Par exemple, de ne pas avoir de cuisine pour se faire à manger, enfin des choses normales. Alors, comme j'aimerais pouvoir me poser un peu, venir m'installer en Europe me semble être la meilleure chose à faire un jour.
C'est la guitare, mais quand vous jouez en groupe, vous choisissez souvent la batterie. Comment s'est opéré ce choix?
J'ai commencé par la batterie. Et c'est amusant en fait, parce que en travaillant avec Keiji Haino et Jim O'Rourke, ça a eu un effet catalyseur sur mon envie de rejouer de la batterie. Parce que pendant notre premier concert, Jim jouait du piano préparé, je jouais de la guitare, et Haino était à l'électronique, à la flûte et à la voix, je crois.
Oui.
On s'est retrouvés un an plus tard, et je ne sais plus comment on en est arrivé là, mais nous avons eu cette idée de faire quelque chose de complètement différent. Je me suis proposé à la batterie. Et après avoir dit ça, je me suis dit, mais tu es fou d'avoir proposé ça. Tu vas jouer de la batterie avec Keiji Haino. J'en avais pas joué depuis des années, et Keiji Haino joue très fort, et il fait des sets vraiment très longs. Mais finalement, ce retour à la batterie m'a vraiment enthousiasmé et ça m'a aussi influencé dans mon travail en solo. Par exemple, dans mes derniers disques solo, le rythme a un rôle fondamental. Et ça m'a aussi influencé dans mon travail à la guitare. Parfois, quand je joue de la guitare en solo, j'ai aussi une batterie sur scène et j'en joue pendant le concert. Ça dépend. Parfois, je fais ça. En tout cas, je m'intéresse à tellement de choses différentes. Alors oui, j'adore ça, m'asseoir derrière une batterie et me concentrer sur ça uniquement, sans penser à l'électronique ou à autre chose. Ça me plaît autant que de jouer de la guitare.
Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne. France Musique.
D'où vient cet intérêt pour les motifs rythmiques? C'est quelque chose que vous souhaitez encore explorer?
I'm still quite interested.
Oui, ça m'intéresse encore. Justement, il y a un mois, j'étais à Londres pour une session d'enregistrement en collaboration avec Mark Fell du Royaume-Uni, Will Guthrie, qui est un batteur australien génial qui vit à Nantes, et Sam Chalabi du Caire qui joue de l'oud. On a fait un enregistrement studio qui était très rythmique. Oui, c'est un domaine qui m'intéresse vraiment particulièrement en ce moment. J'aime l'idée d'une chose qui est assez répétitive et par-dessus toutes ces textures abstraites. Cette forme de juxtaposition m'attire vraiment.
Thank you.
Vous êtes un collectionneur invétéré de vinyle. Vous avez toujours autant besoin d'écouter de la musique ?
Absolument. Je suis toujours curieux et j'ai toujours envie d'entendre de nouvelles choses. J'ai toujours été comme ça. Vous savez, j'ai grandi en écoutant de la musique tout le temps. Quand j'étais au lycée, je m'endormais en écoutant des disques de John Coltrane. Et mon père venait me réveiller le matin en coupant la chaîne. Et c'est comme ça que je me réveillais. Il y avait de la musique tout le temps. Ma partenaire, qui est aussi une artiste sonore, vous savez, elle adore la musique, elle joue tout le temps. Mais je crois que je la rends folle, parce qu'il n'y a jamais un moment à la maison sans qu'il y ait un disque qui passe. Donc oui, j'écoute de façon obsessionnelle et ça m'intéresse de découvrir des choses nouvelles ou des choses anciennes que je ne connais pas. C'est un peu une sale manie que j'ai.
Quels sont vos prochains projets ?
J'ai quelques projets en cours. Il y a ce projet avec Mark Fell, Sam Shalabi et Will Guthrie. J'ai aussi un projet en duo avec ma compagne, Chris Cole. Nous étions récemment à Stockholm pour le EMS, l'Electronon Music Studium. On est resté là-bas une ou deux semaines et nous avons achevé un nouveau disque en duo, qui est assez inhabituel. Nous avons utilisé des synthétiseurs qu'ils avaient là-bas. Et ils avaient un Buckla et un Serge. On s'en est servi, mais on ne voulait pas vraiment faire de la musique qui sonnait comme de la musique de synthétiseur, parce que c'est ce que tout le monde a l'air de vouloir faire en ce moment. Donc nous les avons utilisés, mais d'une façon oblique. Et je suis très content de ce qu'on a fait là-bas. On a aussi passé 4 jours à l'EMS avec Leif Elfgren. C'est un artiste, compositeur, interprète suédois, complètement hors normes. que j'adore.
Who I really love. And,
et on a fait un enregistrement en trio, très bizarre, ensemble.
So, that needs to be mixed.
Il doit encore passer au mixage. Mais c'était vraiment très amusant. Donc voilà, c'est l'avantage de voyager. On peut rencontrer des gens comme ça et travailler ensemble.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. À la technique, tapis dans l'ombre, étaient Pierre Monteil et Amandine Grevaux. Attaché de production, Soisic Noël, chargé de réalisation, Bruno Rioux-Maillard.
Bruno Le Thor et François Bonnet, tapage nocturne.
Il est temps maintenant de retrouver Anne Montaron et son Alain Brévé.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.